Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la suite de Celle que vous croyez, roman de Camille Laurence, édité chez Gallimard en 2016. Je ne sais pas, peut-être juste parce que je voulais qu'elle continue à vivre. Il y a une chose qui m'a beaucoup troublée quand Katia est morte, c'est que j'ai récupéré son ordinateur avec toutes ses affaires, mais comme ni moi ni personne n'avions son mot de passe, je n'ai jamais pu ni entrer sur son compte Facebook, ni a fortiori le clôturer. Alors sa page existe toujours, des années après son décès. Si vous tapez son nom, mais je ne vous dirai pas son nom, d'ailleurs elle avait un pseudo, elle apparaît, sa photo de profil, avec des lunettes de soleil. Non, une autre photo. Celle de couverture, avec un mot écrit en néon jaune. Elle swear. Et si vous êtes amie avec elle, comme je l'étais, vous pouvez lire son dernier post, insignifiant, 15 jours avant sa mort, et les messages de rares amis, de collègues plutôt, qui déplorent sa disparition sur son mur, qui lui présentent en quelque sorte leurs condoléances posthumes, qui partagent avec elle le chagrin ou bien la nouvelle, simplement la nouvelle de sa mort. Je me demande comment on appelle ces pages-là dans le jargon. Pas un fake, non, un ghost, il me semble, un fantôme. Voilà ce qu'elle est devenue, une femme doublement virtuelle, morte et restée dans les limbes du net. Alors oui, je voulais sûrement que ça continue ailleurs, qu'elle soit aimée, elle qui ne l'a guère été, je crois, par un homme, je veux dire, que sa beauté touche le cœur de quelqu'un. On se ressemble, on se ressemblait un peu. C'est ma nièce, la fille de mon frère. Elle vivait en moi, si vous voulez, grâce à cette photo. Et Chris l'a aimée en moi. Quel mal y a-t-il à ça? Elle s'est suicidée. Je ne sais pas, on n'a jamais su. Elle avait 28 ans. Son père, mon frère, était mort 3 ans plus tôt des suites d'un accident de voiture. Sa femme a été tuée sur le coup, ainsi que ma sœur aînée qui était avec eux. Lui a passé 3 semaines à l'hôpital, on a même cru qu'il s'en tirerait. Il est sorti du coma, puis finalement... J'ai eu le temps de lui promettre de m'occuper de sa fille. Katia avait déjà 25 ans, ce n'était plus une petite fille, mais elle était fragile. Elle avait tendance à déprimer, à boire trop, à se laisser manipuler. Et comme elle était très jolie... La mort de ses parents n'a rien arrangé, bien sûr. Peu après, elle a perdu son job. Elle était comptable, je crois qu'elle s'ennuyait ferme. Et pour tenir la promesse faite à mon frère, je lui ai proposé de venir habiter chez nous quelque temps, histoire de se refaire une santé. Je vivais encore près de Rouen avec ma famille à ce moment-là. C'est dans le jardin que j'ai pris les dernières photos d'elle, dont celle que j'ai envoyée à Chris plus tard. Je ne la connaissais pas très bien, en fait. Mon frère a longtemps vécu à l'étranger, on ne les voyait presque pas. Je me suis rapprochée d'elle après la mort de ses parents, même si elle est toujours restée assez réservée, en tout cas avec moi. Elle se comportait comme la fille unique qu'elle était, en autarcie, enfin assez seule. Elle ne se confiait pas beaucoup sur ses amis, elle n'invitait jamais personne à la maison, par discrétion peut-être. Mais de toute façon, elle ne devait pas en avoir beaucoup, puisqu'elle était étrangère à la région, au village où nous habitions. Elle passait son temps sur Internet. C'était les débuts de Facebook. Je me souviens, mais moi, à cette époque, je trouvais ça débile. Je savais à peine comment ça fonctionnait. Katia restait des heures devant son écran, ce qui m'agaçait parce qu'elle donnait le mauvais exemple à mes enfants, qui étaient petits et influençables. J'aurais voulu les préserver de tous ces jeux vidéo et autres bêtises. Et le reste du temps, elle bronzait dans le jardin, elle jouait au ping-pong avec mon mari ou bien elle assistait aux répétitions de ses spectacles. Il lui donnait de petits rôles de figuration pour la sortir de sa mélancolie, disait-il. Il s'entendait bien. Il disait qu'elle avait besoin de retrouver un père. Elle est partie. Elle est partie parce qu'il fallait bien qu'elle s'en aille, non ? Elle n'allait pas rester chez nous ad vitam aeternam. Je lui ai trouvé un petit boulot d'aide comptable dans une société de nettoyage à côté de Rodez. Comment ? En écumant moi-même les offres d'emploi dans Voum Voum, puisqu'elle ne le faisait pas. Quand on cherche, on trouve. C'est vrai d'un travail comme d'un mari, disait ma grand-mère. Elle n'avait pas très envie de s'en aller. Forcément, elle était bien chez nous. Mais j'ai pensé que mon frère et ma belle-sœur n'auraient pas apprécié de la savoir si oisive à son âge. J'ai cru bien faire. Je me suis sans doute trompée. Je l'ai aidée à emménager à Rodez. Elle a pris son poste. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais ça avait l'air d'aller. Même si elle ne donnait jamais de nouvelles de son propre chef, quand je lui téléphonais, elle avait l'air d'aller. Je ne pouvais pas deviner, vous comprenez ? On n'a jamais su ce qui s'était passé. La police n'a pas mené d'enquête parce qu'elle a conclu très vite à un suicide. Ni un meurtre, ni un accident. Un suicide. Pourquoi ? D'abord, la porte de son studio était fermée de l'intérieur. Il n'y avait aucune trace de lutte. Pas de mots d'adieu non plus, c'est vrai. Une bouteille de gin bien entamée. Mais surtout, elle n'avait pas les poignets cassés. C'est ce qu'ils ont établi à l'autopsie. Il paraît que quand vous êtes poussé ou que vous tombez accidentellement, vous avez le réflexe de mettre les mains en avant, même si ça ne sert à rien du cinquième étage, et vous vous cassez les poignets. Tandis que si vous vous jetez volontairement... Ça me rappelle l'histoire du type qui tombe du 25e étage. À chaque étage, il dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Vous la connaissez ? Attendez, j'en ai une meilleure. C'est une femme qui tombe du 25e étage. Elle est rattrapée au 20e par un homme à son balcon qui lui dit « Tu baises ?» Elle dit « Non ». Il la lâche. Au 15e étage, elle est rattrapée par un homme qui lui demande « Tu suces ?»« Non », bégaye-t-elle. Il la laisse tomber. Elle continue sa chute, mais au 10e étage, elle est arrêtée par un homme. « Je baisse, je suce », bredouille-t-elle précipitamment. « Salope », dit le type, et il la lâche dans le vide. « Bon, ça ne vous fait pas rire. Moi, j'adore les blagues, surtout les mauvaises. Vous êtes puritain, dommage. » Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas trouvé l'homme qui lui convenait, qui l'acceptait comme elle était. Quand on m'a laissé entrer chez elle, la fouille avait eu lieu, n'avait rien trouvé, aucun indice, aucun lien suspect. À son travail, ils ont dit que Katia était sympathique, pas très sociable. Personne ne lui connaissait de liaison, malgré sa beauté. Ils l'ont décrite comme plutôt rêveuse, à regarder souvent par la fenêtre. Dans son studio, il n'y avait pas grand-chose. Quelques chemises avec des papiers administratifs, des factures. J'ai tout épluché à la recherche du moindre détail pouvant éclairer sa vie privée durant les 8 mois qu'elle avait passé à Rodez. Rien. On m'avait rendu son téléphone portable. Rien. Les numéros de ses collègues, celui d'un coiffeur, de la banque, nos numéros à nous, et ceux de ses parents qu'elle n'avait pas effacés. Il y avait juste un numéro inconnu que j'ai appelé pour voir. Il n'était plus attribué. Je pensais que son ordinateur serait plus loquace, mais sa messagerie ne m'a rien appris, aucun mail compromettant ou simplement privé. Elle les avait peut-être supprimés avant de se supprimer. Sa vie, 28 ans de vie, semblait vide, lisse, sans aucune aspérité, que le décès de ses parents, elle avait gardé toutes les coupures de journaux. La seule chose qui m'a intriguée, ce sont les publicités sur son ordinateur. Les cookies, vous savez, qui vous filent et vous fichent en permanence. Il y avait des annonces pour des sites de rencontres, Mythic, e-darling, ce genre. Elle avait sûrement un compte, et j'ai tout essayé pour le retrouver, mais sans le mot de passe, comment faire ? J'ai même demandé à la police d'effectuer une enquête informatique pour décrypter les secrets numériques de Katia. Ils n'ont pas voulu. Pour eux, rien ne justifiait une telle atteinte à la vie privée. Les morts aussi ont droit au respect, m'ont-ils dit. Mais si un sale type sur Mythique ou autre l'a poussé à bout, est-ce que ce n'est pas un crime ? Est-ce que ce n'est pas un crime ? Mais non, rien d'illégal là-dedans. Ou alors il faudrait prouver le harcèlement moral, trouver la trace d'une volonté de nuire, et encore. Est-ce que moi, par exemple, j'avais la volonté de nuire ? La police m'a aussi expliqué que dans les suicides, il n'y a pas forcément préméditation, pas obligatoirement de raison précise, d'où l'absence de signes avant-coureurs nets ou de lettres d'explication. Katia a pu ouvrir la fenêtre pour prendre l'air parce qu'elle étouffait, et une impulsion l'aura précipitée par-dessus la balustrade, un genre de raptus, ni vu ni connu, je m'en vais. Une façon de mettre fin à un souci, à une angoisse, à une existence morne, ou un simple coup de blouse. Voilà tout. Mais moi, je n'y crois pas. Je pense qu'elle avait rencontré quelqu'un sur Mythique ou sur Facebook, qui sait. Et qu'elle est tombée sur un dingue, un méchant, un type qui l'a fait souffrir à en mourir. Un « va mourir », quoi. Alors elle est morte. C'est de ça qu'elle est morte. Les gens ne meurent pas, on les tue. Je tue, je suis tuée. C'est le mouvement naturel de la vie. Tuer, être tué. On n'y échappe pas. Allez, bonsoir, j'entends la cloche.
Le vin de ses vaisseaux, au rythme de son cœur, coule et donne à boire à des bouches au hasard. Mille et une personnes, des amis, des amants, viennent boire impunément. Dégorgé de son sang, des hommes, les hommes, ces hommes, gastrolâtres et gourmands. Gastrolâtres et gourmands viendront dévaliser toute la fontaine de sang, sa fontaine de sang. Thank you. la ration des enfants, écoper librement l'insatiable parent a tué ses enfants. La fontaine tarie, elle retrouvera la vie une fois que ses ennemis ne seront plus de son temps.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Je vous ai apporté un indice de ce que je vous disais avant-hier. C'est le livre que Katia lisait quand elle est morte. J'ai laissé le marque-page à l'endroit où je l'ai trouvé, page 157. Elle avait presque fini et elle avait corné des pages. Vous allez voir, c'est parlant. J'ai eu un choc quand je l'ai découvert sur sa table de chevet. Tous ses livres étaient rangés tranquillement sur une étagère, rien de passionnant. Je les ai regardés un à un. Des clubs des cinq qu'elle avait gardés de son enfance, des manuels de comptabilité, quelques romans policiers, un traité du bonheur. Un traité du bonheur. Et puis ce livre, donc. Je peux vous dire que je l'ai épluché, oui, lu et relu. Et pas seulement parce qu'il était le dernier dépositaire de la vie de ma nièce, en quelque sorte. Je l'ai lu aussi parce que ça m'intéressait, tout simplement. Je venais de rencontrer Jo. Tenez, écoutez ça, elle l'a surligné en jaune. Aussi contraire que ce soit aux idées reçues, l'homme hystérique, HH, n'aime pas faire l'amour. À la limite, le sexe est pour lui une corvée, qui lui procure très peu de plaisir. Ce qui intéresse l'HH, c'est de séduire, de susciter l'attente, puis de la décevoir systématiquement. Alors, il vous laisse en plan et commence à rêver d'une autre proie, d'une nouvelle dupe. L'HH type Don Juan, condamné à errer de demande en demande en les frustrant sans cesse. Sa devise, ailleurs l'herbe est plus verte. L'HH contemporain, de plus en plus répandu, passe sa vie sur Internet, sites de cul ou de rencontres, jeux vidéo, tout lui est bon pour éviter le passage à l'acte. Il préfère mille fois la masturbation ou la fête entre potes. Si vous commettez la folie de l'épouser, il aura vite fait de vous transformer en « fishing widow », ces veuves de pêche irlandaises que leur mari délaisse constamment pour aller taquiner le saumon avec leurs copains. L'achage fait s'ouvrir les femmes. Mais n'oublions pas qu'il souffre aussi. En effet, contrairement au pervers narcissique, il culpabilise de ne pouvoir s'empêcher de trouer tout ce qui est lisse et harmonieux et de faire échouer ce qui pourrait réussir. Il cherche toujours la faille chez la femme et il la trouve. D'une petite phrase assassine, il vous touchera au défaut de l'armure et vous laissera là. À fuir absolument si vous cherchez l'amour. L'HH ne sera jamais au rendez-vous. À moins que vous ne soyez vous-même hystérique. Auquel cas le couple fonctionnera sur le principe de la frustration réciproque. À méditer. Oui, je sais bien, je vous vois tordre le nez. Ce n'est pas du Freud, d'accord. N'empêche, quand je lis ça, je me dis qu'elle devait cacher beaucoup de choses, Katia. Elle a corné beaucoup d'autres pages, à croire qu'elle a rencontré tous les dingos de la Terre. Elle avait sans doute une vie parallèle à son existence sociale, des fantasmes, des névroses, des fréquentations douteuses. Mon frère était quelqu'un de plutôt strict. Elle a eu une éducation renfermée. Elle s'est repliée. On le voit bien sur la photo. Elle sourit, mais d'une façon contenue. Elle retient son sourire. Le problème dans le jeu de cache-cache, c'est quand vous restez caché sans que personne s'en aperçoive. Si tout le monde abandonne la partie alors que vous êtes toujours derrière votre buisson, qu'est-ce que vous devenez ? Perdre à ce jeu, ce n'est pas être trouvé, c'est quand personne ne vous cherche. On n'a plus d'autre solution que d'ouvrir la fenêtre, de se débusquer de la vie. Oui, des névroses. Le mot fait tilt pour vous, hein ? Disons que j'ai essayé de reconstituer ce qui avait pu se passer pour elle. Et j'ai voulu lui offrir une seconde chance, en quelque sorte. Une deuxième vie. Mais ça s'est fait dans l'après-coup. Je suis d'abord tombée amoureuse de Chris. Ensuite, j'ai envoyé la photo de Katia. Pas le contraire, c'est important. Et s'il y a quelqu'un qui n'avait pas l'air d'une personnalité difficile, c'était bien Chris. Je vous l'ai dit, « cool » était son mot fétiche. Il s'adaptait à moi avec une tranquillité qui me touchait. J'aimais les enfants, il en voulait trois. Je ne pouvais pas en avoir, il s'en moquait. Je rêvais de voyage, il était baroudeur dans l'âme. J'aspirais à un petit nid d'amour, il avait envie de se poser. Je détestais les hommes jaloux, il ne l'était pas. Je cherchais une relation fusionnelle, lui aussi. Il voulait être le prince charmant. J'étais émue de cette disposition à me plaire qu'il avait, à m'accueillir. Jusque-là, j'avais plutôt connu l'inverse. Je m'étais toujours pliée au désir, au goût de l'autre. Alors soudain, je me suis dit, c'est ça l'amour. C'est quelqu'un qui accepte de me partager avec moi. Coupable. Ah oui, forcément, parce que je n'ai rien pu faire. Et puis c'est moi qui l'ai chassé de la maison. Enfin, je veux dire, pas chassé, j'avais juste besoin de me retrouver en famille. Surtout que ça n'allait plus très bien avec mon mari, je voulais me recentrer sur nous. Ça a raté dans les grandes largeurs. Je me suis séparée de lui 3 mois plus tard et Katia est morte. Et puis il y a eu Jo et Chris et je suis devenue folle. Être folle, ce que c'est qu'être folle, vous me le demandez. C'est vous qui me le demandez. C'est voir le monde comme il est, fumer la vie sans filtre, s'empoisonner à même la source. Katia a dû avoir cette lucidité à un moment. Elle a vu l'absence d'amour, alors elle s'est absentée. Moi, c'est autre chose. J'ai vu la perte, moi. Pas l'absent, le perdu. Comme le temps perdu. Avec vous, par exemple, je perds mon temps, là. Vous voulez me faire dire quelque chose, on dirait, mais vous seul savez quoi. Mon mari est venu ce matin avec les enfants. Oui, vous êtes bien renseigné. Les nouvelles vont vite. Je n'ai pas voulu les voir. J'ai eu peur qu'il soit avec sa nouvelle femme. Et puis leur visite me perturbe. C'est fini tout ça, je ne suis plus de ce monde. Parlons plutôt de Chris si vous tenez toujours à parler. J'ai rêvé de lui, et cet après-midi à l'atelier d'écriture, j'ai écrit une belle page sur lui. Enfin je crois, Camille avait l'air contente. Après ce premier coup de téléphone, il y en a eu d'autres. C'était d'une grande douceur et d'une grande banalité. Mais chaque fois qu'il se terminait, j'avais comme une angoisse d'amour. La peur de perdre qui va toujours avec l'amour chez moi. Je me raisonnais. Je me disais, tout ça est une pure fiction. Il est amoureux de toi, mais ce n'est pas toi. Tu es amoureuse de lui, mais sans le connaître. Je me répétais aussi la phrase merveilleuse d'Antonioni, je ne sais plus dans quel film. L'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un. Vous connaissez une meilleure définition ? L'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un. Une fiction, oui. Et alors ? Être aimé, c'est devenir une héroïne. L'amour, c'est un roman que quelqu'un écrit sur vous. Et réciproquement. Il faut que ce soit réciproque, sinon c'est l'enfer. Alors nous, on s'aimait vraiment, Chris et moi. Je vivais dans son imagination, ça c'est sûr, je me sentais vivante dans sa tête, et il occupait mes pensées. J'essayais de me représenter sa vie à l'aide des informations qu'il me donnait. Une phrase d'adolescent comme « j'ai accompagné ma mère chez le dentiste » ou « mon grand-père est à l'hôpital » me plongeait dans un délire d'empathie amoureuse. Il me parlait avec sincérité de son manque d'argent, de son ambition artistique, l'un entravant l'autre. Il entrelaçait ses paroles de phrases très tendres, un peu naïves, qui me laissaient sans défense contre lui. « Tu es mon rayon de soleil. Ne m'oublie pas. J'ai envie de parler de toi à tout le monde, tout le temps. » Cependant, il donnait toujours à notre lien le nom d'amitié, et moi aussi. Je me demandais ce que Joe, à supposer que Chris se confie, ce que Joe pensait d'une relation si platonique. Il devait trouver ça complètement débile. Nos conversations avaient presque toujours lieu tard le soir. Souvent, je parlais bas pour ne pas réveiller mes enfants la semaine où je les avais, si bien que Chris a fini par me demander pourquoi. J'ai raccroché assez brusquement, sans lui répondre, mais ça a été le déclencheur d'une nouvelle série de mensonges. Ceux-ci sont devenus encore plus nécessaires quand il est rentré de la Cano en juin, parce que la famille de Joe investissait la maison pour tout l'été. Chris s'est installé non pas à Paris, où il n'avait pas les moyens de se payer un loyer, m'a-t-il expliqué un soir d'une voix très douce et posée, mais chez ses parents à Sevran. Ce n'était pas glorieux, disait-il, à bientôt 37 ans, de se retrouver en banlieue chez papa-maman, mais il n'avait pas le choix. « Et toi ?» me demandait-il. « Tu es bien installé ? Tu es à Pantin, c'est ça ? C'est tout près de Paris ? J'espère que je viendrai te voir bientôt. » Je me sentais de plus en plus coincée par cette dangereuse proximité. Je n'allais pas pouvoir trouver éternellement une excuse pour éviter un rendez-vous. Alors j'ai inventé un nouvel empêchement. Je lui ai avoué que si je parlais parfois très bas, c'est parce que j'habitais avec quelqu'un, avec un... Bref, je ne vivais pas seule. Il a d'abord cru à un colocataire et je lui ai dit que c'était mon copain, mon boyfriend. Il a accusé le coup, sa voix s'est voilée en me serrant le cœur. « Depuis longtemps ? » a-t-il dit. « Non, » ai-je répondu. « Et ça ne marche déjà plus trop entre nous. Il est très jaloux, très soupçonneux. » Chris a abondé dans mon sens avec ardeur. Lui aussi détestait la jalousie. C'était un sentiment bas. Au contraire, une relation amoureuse devait être fondée sur la confiance. « Moi, je ne suis pas du tout comme ça, » a-t-il dit. « Et toi, tu n'as personne ?» ai-je demandé. « Non, moi je suis célibataire, » a-t-il répondu avec une véhémence voilée de reproches. Je l'avais deviné, une certaine Audrey, 20 ans, un enfant, assistante de caisse à Auchan-Bordeaux, avait récemment disparu de sa liste d'amis. Il avait rompu, il n'était qu'à moi. C'était « Celle que vous croyez » de Camille Laurence, que vous pouvez trouver en collection NRF ou Folio, Gallimard. Lors de la pause musicale, nous avons écouté « La fontaine de sang » de Zao de Sagazan, dans l'album « La symphonie des éclairs ». Cette émission était produite par Frédéric Guillon. Pour la suite de ce texte, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h02 ou en podcast. Je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.